Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, c'est un voyage aux États-Unis que nous allons vous proposer dans ce numéro d'été du magazine Idée avec Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre revue partenaire. Esprit qui consacre son numéro double juillet-août à la société américaine précisément. Cet épais numéro a un titre qui donne le ton, un titre d'actualité après la tentative d'assassinat de Donald Trump, l'Amérique contre elle-même. 8 ans après l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, c'est avec le même sentiment d'incrédulité que nous continuons, malgré tout ce que nous pensions avoir appris dans l'intervalle, d'enregistrer les nouvelles qui nous reviennent d'Amérique, écrit Anne-Lorraine Bujon dans l'introduction de ce dossier qui s'intéresse donc à la société des États désunis, clivés, où la loi des armes n'est jamais loin. Dans l'Amérique de 2024, dans laquelle l'usage des médias sociaux s'est substitué à la lecture du journal, dont Tocqueville faisait une religion démocratique, c'est la relation des personnes à leur environnement immédiat, spatio-temporel, qui est entrée en crise, ajoute notre invité spécialiste des États-Unis. C'est donc un nouveau numéro d'idées qui parvient à vos oreilles et à votre intelligence, un numéro que, comme tous les autres, vous pouvez notamment retrouver sur l'appli RFI Pure Radio, le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Anne-Lorraine Bujon.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver en ce mois de juillet. Nous allons faire ensemble un numéro d'été à l'image de la revue Esprit, de ce numéro double, juillet-août 2024, avec au cœur de l'Amérique, une émission qui sera peut-être un peu plus personnelle, un pays que vous suivez et que vous aimez.
Ah oui, c'est un pays où je suis née d'abord, où j'ai vécu aussi à plusieurs reprises et que je continue de trouver passionnant. Malgré tout, et en ayant le sentiment aussi qu'à mains égards, il ne va pas bien et que tout en allant pas bien, il continue de produire une littérature, un cinéma, une musique d'une diversité, d'une vitalité extraordinaire. Alors moi, j'ai d'abord étudié la littérature américaine et on a voulu, dans ce numéro d'été, mettre pas mal de littérature,
de cinéma.
Voilà. Mmh. Et on n'a pas pu mettre de la musique dans le numéro, mais si on avait pu, on l'aurait fait.
On en entendra de toute façon de la musique grâce à votre intérêt pour Johnny Cash, je le dis déjà. L'Amérique contre elle-même, le titre est très fort, avec... En couverture, une particularité, un drapeau américain à l'envers. C'est-à-dire que les étoiles sont en bas et les rayures sont plutôt en haut.
Et ce drapeau à l'envers, ce drapeau upside down, on dirait en anglais, c'est un signe de contestation aux États-Unis déjà ancien et qui a été utilisé dans différents contextes. C'était d'abord un signe pour les marins en détresse, sur des bateaux en détresse, ils hissaient ce drapeau à l'envers. Et puis, dans plus proche de nous, ça a notamment été un signe pour les mouvements contestataires au moment de la guerre contre le Vietnam. Et avec toute l'agitation qu'il y a eu depuis le 7 octobre et la guerre à Gaza sur les campus américains, c'est vrai que cette référence aux années 60, aux contestations anti-Vietnam, elle est revenue. Des références au mouvement des droits civiques aussi sont revenues pas mal ces derniers temps. Et puis, plus proche de nous encore, ce drapeau à l'envers est devenu plutôt un emblème de la contestation Stop the Steal, ce mouvement de l'élection volée qui a été impulsée par Donald Trump, donc qui prétendait sans aucune base objective que la dernière élection lui avait été volée et que Biden n'était pas le président légitime, ce qui a conduit jusqu'à l'insurrection au Capitole en janvier 2021, où on a pu voir ces drapeaux à l'envers. Et c'était pour moi le symbole, effectivement, d'une Amérique qui se retourne contre elle-même, ou en tout cas cas, il y a une bataille des récits, des représentations et parfois des accords même sur l'idée d'Amérique. C'est ce que je disais aussi. On sait que l'Amérique est c'est un grand producteur de mythologie.
Vous écrivez, Anne Lorraine, que la machine à créer des héros et des mythes semble s'être affolée.
Voilà, c'est vrai que c'est un pays producteur de mythes et c'est formidable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Amérique? Qu'est-ce que le rêve américain? Je pense que si vous le demandez à un électeur du Wisconsin, vous n'aurez pas la même réponse que dans la Silicon Valley ou dans le Vermont ou dans le Texas ou en Floride. Donc on a aussi une bataille des imaginaires, des différents imaginaires américains. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en lumière, notamment dans les textes qui sont consacrés à la littérature ou au cinéma dans ce numéro.
Des textes qui sont consacrés à la société américaine plus qu'à la question politique qui en est le reflet. Mais c'est la société qui vous intéresse, les sociétés américaines.
Voilà, alors ici, on suit l'intuition qui était l'intuition fondatrice de Tocqueville dans son célèbre ouvrage « De la démocratie en Amérique ». C'est vrai qu'on a eu le sentiment que les États-Unis s'enfoncent depuis plusieurs années et sans doute depuis plusieurs cycles électoraux dans une crise démocratique. C'est difficile de dater exactement le début de celle-ci, mais
c'est un sujet de réflexion des spécialistes.
Voilà,
à partir de quand tout ça a commencé.
Voilà, mais il y a ces phénomènes de polarisation qui sont très évidents, des républicains, des démocrates qui n'arrivent plus du tout à travailler ensemble, des institutions qui sont paralysées, des gens qui ne s'informent plus auprès des mêmes journaux. Donc cette société très très polarisée et ses effets en politique, il me semble qu'on en a pas mal parlé en France et en Europe toutes ces dernières années. Mais là, avec ce numéro, en fait, on voulait tester une autre idée ou hypothèse qui était que ce qui n'allait plus aux États-Unis, c'était la culture démocratique, les mœurs, au sens où Tocqueville utilisait ce mot en disant ce qui fait la démocratie en Amérique, c'est d'abord des mœurs, c'est une manière d'être, une manière de vivre ensemble, et que peut-être c'était là que quelque chose s'était cassé ces dernières années.
Ce qui est au cœur de la réflexion, parce que les États-Unis constituent une société où l'individu a un rôle moteur, normalement.
Un rôle moteur, on sait l'importance qu'on y attache à la liberté, aux libertés individuelles, mais aussi au sens des responsabilités, l'idée qu'on doit quelque chose à sa communauté, qu'on doit rendre les bienfaits qu'on a reçus. Et c'est vrai que ce terme de communauté, il est omniprésent. Alors, l'individu est omniprésent aux États-Unis et on pense bien sûr aux grandes représentations, les westerns, la conquête de l'Ouest, et ici les films de Clint Eastwood. Donc voilà, on a cet individu et au besoin cet individu solitaire, mais aussi en contrepoint la communauté. Et ce mot, on l'entend partout, tout le temps aux États-Unis, avec des acceptions différentes. Ça peut être la paroisse, ça peut être l'école, ça peut être les anciens élèves, ça peut être. Mais l'individu s'inscrit dans une communauté. La difficulté, il me semble, dans la société américaine aujourd'hui, c'est que d'une communauté à l'autre, on a des visions du monde, des valeurs et des manières de vivre, en fait, qui ne sont plus du tout les mêmes et qui ne sont plus du tout compatibles entre elles, à tel point qu'on revoit, par exemple, surgir l'idée de sécession. La Californie, qui est un État très libéral, qui est aussi un État très prospère, hein, il faut rappeler, c'est la cinquième économie mondiale, je crois, la Californie. Voilà, il y a des espèces de scénarios de politique fiction. Que se passerait-il si la...
Douglas Kennedy a consacré son dernier roman, ou l'avant-dernier, à cette question.
Voilà, la Californie faisait sécession, ou si le Texas faisait sécession. Et bon, en réalité, je ne pense pas que ce soit imminent, ni que ça va arriver. Mais en revanche, Donald Trump, par exemple, est quelqu'un qui a beaucoup favorisé le retour au droit des États Et le droit des États, c'était des mantras conservateurs, mais c'était le droit des États, plutôt des États fédérés, plutôt que l'État fédéral centralisé. C'était évidemment les mots d'ordre des sudistes, après avoir perdu la guerre de sécession et dans cette longue période de ségrégation qui a duré de la fin de la guerre de sécession jusqu'aux années 60 et au mouvement des droits civiques. Et donc, en fait, on voit revenir aujourd'hui tous ces schèmes, tous ces discours qui sont des discours qui rappellent des époques où les États-Unis étaient extraordinairement clivés, parce qu'il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, on a des États-Unis très divisés. Ce n'est pas la première fois dans leur histoire.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, et avec Anne-Lorraine, nous parlons du numéro double de cet été consacré à l'Amérique contre elle-même, numéro double de la revue Esprit, notre revue partenaire. Je voudrais que nous parlions de la première partie de ce dossier qui est consacré à la liberté d'expression. Il est intitulé « Les limites de la liberté d'expression » car la question se pose aujourd'hui de savoir jusqu'où on peut exprimer ses opinions. De quelle façon ?
Oui, alors la liberté d'expression, donc ça fait partie de ces valeurs fondatrices aux États-Unis, comme la liberté d'association, comme la liberté d'entreprendre. Et ici, vous voyez que je continue de tirer le fil de la pensée de Tocqueville. Mais c'est aussi une notion qui s'est construite au fil du temps, qui a une histoire. Et c'est ce que montre notamment Alice Béja dans son texte. Je parlerai à Philadelphie, où elle montre en fait que c'est au début du XXe siècle que des militants, notamment des militants anarchistes, féministes, s'emparent de cette question de la défense de la liberté d'expression comme étant un de leurs droits constitutionnels, parce qu'ils estiment que, donc c'est des militants un peu marginaux à l'époque, qu'ils ne sont pas suffisamment bien représentés dans la société, voire que la société réprime ces opinions qui lui semblent trop radicales. Et donc la défense de la liberté d'expression, elle est bien sûr inscrite dans le premier amendement de la Constitution. Et il y a beaucoup de gens qui s'en réclament, mais ça n'a pas toujours été les mêmes personnes. Et aujourd'hui, on voit que cette liberté d'expression est l'enjeu de batailles féroces, notamment dans le cadre donc, de toute l'agitation qu'il y a eu sur les différents campus d'universités très prestigieuses aux États-Unis ces derniers temps, et autour donc des attentats du 7 octobre et de la guerre à Gaza, avec d'un côté des étudiants, des groupes d'étudiants qu'on pourrait appeler assez radicaux dans leur critique de ce qu'ils perçoivent comme des formes de colonialisme et dans leur revendication de plus de justice sociale et plus de soutien aux Palestiniens de Gaza. Donc là, on dit c'est trop radical. On les accuse au besoin d'antisémitisme séparatisme. Le Congrès demande au président d'université
des explications,
de reprendre la société en main, de l'ordre. Donc, on a vu aussi des descentes de police dans les campus. Donc, on voit que cette question de la liberté d'expression, elle est tout sauf apaisée ces temps-ci. Mais elle serait plutôt devenue aujourd'hui, je pense, une... Enfin, ça dépend des contextes. Mais on va dire qu'il y a des gens très conservateurs qui s'en réclament en même temps qu'il y a une volonté de supprimer certains types d'expressions aux États-Unis aujourd'hui qui peut venir aussi bien de la gauche que de la droite. La gauche voudrait qu'on ne puisse pas s'exprimer quand on est raciste, sexiste, voilà. Et la droite, elle, voudrait qu'on ne puisse pas s'exprimer quand c'est une insulte aux bonnes mœurs et demande, par exemple, d'expurger des manuels scolaires, ce qui est quand même fou au pays de la liberté d'expression.
Anouen Bujon, nous allons donc écouter Johnny Cash. Il va nous accompagner dans ce numéro d'été d'idées. Pour quelle raison l'avez-vous choisi ? Parce que c'est vous qui l'avez choisi.
Alors moi, j'aime beaucoup Johnny Cash parce que j'aime beaucoup cette voix très grave qui est devenue de plus en plus grave. Et en fait, la très grande variété des styles musicaux qu'on entend chez Johnny Cash au fil des ans, donc avec à la fois le blues, le gospel, le folk, la country music en fait, donc ses instruments, le banjo. Johnny Cash, il est né en fait dans une Amérique du sud rurale, pauvre. Oui. Donc on pourrait dire c'est l'Amérique du Heartland.
Dans les années 30 en plus.
Dans les années 30, en 1932. Et donc c'est un peu des morceaux d'Amérique où je pense qu'on vote beaucoup pour quelqu'un comme Donald Trump aujourd'hui. Mais lui vient d'une de ses familles pauvres. Il a travaillé dans les champs de coton et puis il a réussi. Il a un peu fait tous les métiers. Il a été acteur, donc chanteur bien sûr, mais il a été aussi acteur. Il a joué dans Columbo. Il a joué dans des séries télévisées. Il a connu beaucoup de présidents américains, Nixon notamment. Voilà, il a pris fait et cause pour des détenus, donc il a un certain nombre de chants de prison. Mais je trouve qu'on entend dans la musique de Johnny Cash beaucoup de facettes de la culture américaine, et avec cette face lumineuse, joyeuse de certaines de ses chansons, et aussi une face beaucoup plus tragique, beaucoup plus sombre, élégiaque, le sentiment d'avoir perdu quelque chose, la quête de la rédemption. Enfin voilà, on entend beaucoup de ces veines culturelles et musicales différentes chez lui.
Alors la prison a été au cœur de sa vie, d'abord parce qu'il l'a connue, et ensuite parce qu'il a beaucoup chanté dans les prisons. Et vous avez choisi comme première chanson une chanson qui évoque la prison justement.
Voilà, Folsom Prison Blues, qui est un des premiers grands succès de Johnny Cash. Donc, il a plutôt une vingtaine d'années. C'est dans les années 50 que cette chanson est devenue un tube. Donc, il dit que l'idée lui en est venue parce qu'il avait vu un film sur la prison de Folsom quand il était lui-même aviateur. Donc, ça aussi, ça fait partie un peu des mythologies américaines. Donc, il a été dans l'Air Force. Et il avait été très impressionné par ce film sur les prisons, sur la vie des détenus et justement sur ses réflexions sur le crime, la responsabilité individuelle, mais aussi ce détenu, il chante la liberté des gens qui sont dehors, et notamment il imagine des gens dans un train. Et donc tout ça, ce sont des styles existants, le chant de prison, le chant de travail, le chant de train. Hein, dans la country music, il y a beaucoup de chants de train qui font partie aussi de ce rapport au territoire très vaste et à l'idée d'aller l'explorer, d'aller chercher sa liberté toujours plus loin.
Johnny Cash, donc.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno,
just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. That railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Nous sommes véritablement aux États-Unis. Vous écoutez Idée, nous parlons de l'Amérique contre elle-même. Pour reprendre le titre du dossier de la revue Esprit, le numéro double, juillet-août, en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, spécialiste et amoureuse des États-Unis. Avec, dans ce chapitre consacré à la liberté d'expression, qui est le premier grand chapitre du dit dossier, l'université américaine, avec une question, la fin de la tour d'ivoire, parce que l'université, qui est une institution américaine par excellence, est remise en question.
Oui, de plusieurs manières. C'est-à-dire Michael Behrendt, qui est historien, qui travaille à l'université des Appalaches en Caroline du Nord, qui est donc lui-même universitaire, rappelle que évidemment l'histoire de l'université aux États-Unis, elle est plus courte que chez nous, et les premières grandes universités datent de la fin du. Enfin, il y a eu des premières institutions dès l'époque des colonies en Nouvelle-Angleterre, mais
Harvard, par exemple, Princeton,
qui étaient des collèges d'abord religieux, où on recevait une instruction religieuse et dans les humanités de manière générale. Et puis, les grandes universités sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est plutôt la fin du 19e siècle. Et elles ont connu un âge d'or, nous dit Michael Behrendt, en particulier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où là, véritablement, ce sont les universités qu'on connaît, hein, qui sont admirées dans le monde entier pour la vitalité de la recherche, pour le nombre d'étudiants qui les fréquentent, pour les conditions extrêmement agréables dans lesquelles on y travaille.
Et d'ailleurs, Michael Behrendt rappelle ce qu'est un campus aux États-Unis, qui est souvent à l'extérieur de la ville et qui constitue une ville.
Voilà, une ville, un petit foyer, une communauté, là encore, où on se dédie à l'enseignement et à la recherche. Mais aujourd'hui, peut-être aussi une bulle.
Coupée du monde, effectivement.
Voilà. Une bulle coupée du monde où on serait un peu déconnecté. Et c'est une idée qu'on entend beaucoup en ce moment, que les universitaires américains sont en fait des privilégiés qui ne comprennent plus le reste du pays et qui sont, par exemple, qui ont des opinions beaucoup plus progressistes. Ils sont beaucoup plus à gauche, pour dire vite, que l'ensemble de la population américaine. Et donc, ils ont des discussions sur la protection des droits des minorités, sur justement la liberté d'expression, le politiquement correct, qui semble un peu lunaire, on va dire, vu depuis d'autres parties du pays. Mais dans le même temps, l'université, nous dit Michael Behrendt, n'est pas à l'abri des tensions qui traversent la société américaine et de ces phénomènes de polarisation et de politisation. Et donc, il pointe d'abord une question économique. Les universités, en fait, sont des entreprises les plus grandes, les plus prestigieuses. Il y a des universités publiques, il y a des universités privées. Mais celles qui font beaucoup parler d'elles, Harvard, Columbia, Yale, Princeton, en fait, sont des entreprises très prospères, hein, et avec des enjeux et des questions qui sont celles d'entreprises prospères.
Là, on parle de milliards de dollars, hein.
Et des comptes à rendre à des conseils d'administration et à des anciens élèves influents qui contribuent à les financer. Et donc ça alimente aussi des tensions aujourd'hui. Pendant que Les étudiants s'endettent dans des proportions absolument vertigineuses.
D'ailleurs, Michael Behrendt rappelle un chiffre qui m'a semblé extravagant. Le taux d'endettement des étudiants représenterait la somme de 1 600 milliards de dollars.
Voilà, donc on sait que les frais de scolarité dans un certain nombre de ces universités prestigieuses sont très élevés et de plus en plus élevés. Et que pour pouvoir y accéder, un grand nombre d'étudiants s'endettent. Ils s'endettent avec l'appui et l'aide du gouvernement fédéral qui garantit ses prêts. Mais quand il y a des phénomènes de crise économique, comme on a eu en 2008-2009 ou comme on a eu dans une moindre mesure au moment du Covid, la question de la dette étudiante revient en force parce que les étudiants font défaut sur leur dette. Et un peu comme on a vu dans le contexte des subprimes, si vous voulez, il y a cette espèce de fuite en avant qui connaît des trous d'air. Et donc la question de la dette étudiante aujourd'hui est très préoccupante. Mais également la question de la précarité des enseignants. Puisque le système des universités américaines, il reposait sur ce que Michael Behrendt, il nous rappelle que ça s'appelle la tenure, qui est en fait des contrats de titulaire à vie. Quand on a un poste, c'est à vie. Et c'est ça qui permettait aux étudiants, aux enseignants de travailler dans une très grande liberté. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus remis en cause. Et les universités américaines, comme les nôtres, en fait, fonctionnent de plus en plus avec des personnels précaires, contractuels, qui ne sont pas titulaires. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que l'université américaine, aujourd'hui, elle est exposée aux mêmes incertitudes, aux mêmes inégalités qui se creusent que d'autres pans de la société ou de l'économie américaine.
Avant de parler d'autres sujets, il faut s'arrêter quand même un instant sur l'article d'Emmanuel Alloa, qui a trait aussi à l'université, parce que lui y a enseigné en 2023, et il analyse ce qu'il appelle l'injonction d'identification.
Identifiez-vous. Il a intitulé son texte comme ça. Donc Emmanuel Alloa, il est professeur de philosophie et d'esthétique à l'université de Fribourg, mais il a été effectivement invité pour un semestre d'enseignement à Yale cette année, et il nous écrit un peu ses impressions, c'est son retour d'Amérique, enfin, ou c'est son retour de Yale plus exactement.
C'est assez inquiétant ce qu'il écrit, je trouve.
Tout à fait. Et moi, j'ai trouvé que ça touchait très juste aussi, parce que donc il rappelle que quand on arrive dans une université américaine, il faut une carte d'identité qui est un sésame qui vous ouvre la porte de tout, de la bibliothèque, de la piscine, de la cantine. Moi, je me souviens très bien de ça dans mes propres études aux États-Unis, à New York, parce que accessoirement, cette carte d'identité, on vous la délivre aussi une fois que les frais de scolarité sont payés. Enfin bon, dans son cas, comme il était professeur invité, et qu'il rappelle que tout ça a été plutôt agréable. Voilà, il a eu sa carte d'identité. Mais effectivement, il y voit un symbole du fait qu'aujourd'hui, on vous invite à dire publiquement dans quel camp vous vous situez, en fait. Il dit, on est là, dans ces pratiques sociales ordinaires, celles qui intéressaient Tocqueville, dans un schéma où on vous dit, ben, qui êtes-vous, d'où venez-vous, que pensez-vous, pour qui votez-vous ? Identifiez-vous. Dites-nous à quelle communauté vous vous identifiez. Et on a beaucoup parlé du développement d'une politique des identités tous ces derniers temps aux États-Unis. Dites-nous à quel camp vous appartenez. Et Emmanuel Alloa attire aussi notre attention sur une nouvelle pratique sociale, le doxing.
Ah oui. Voilà. C'est la dénonciation.
Qui consiste en fait à dénoncer, enfin à révéler publiquement des lettres, des contacts que les gens ont eus sur les réseaux sociaux, ces fameux réseaux sociaux. Un tel a dit que, un tel a liké le post d'un autre. Et donc, c'est bien la preuve, par exemple, qu'il est raciste ou par exemple qu'il est antisémite. Et donc, certaines personnes se comportent comme des justiciers et en fait révèlent au public des informations que les personnes ont échangées sur les réseaux sociaux. Donc on voit que ces réseaux sociaux, qui devaient être le moyen d'entretenir des liens personnels avec des gens, ils sont aussi retournés comme des mécanismes d'exposition. Et Bernard Harcourt, qui est un des autres auteurs de ce dossier, a écrit un livre très intéressant sur l'usage des réseaux sociaux qui s'appelle « La société d'exposition ». Donc ce sont aussi des sociétés où on s'expose, où on expose son intimité, ses affiliations, son identité aux besoins. Mais Emmanuel Aloha rappelle que ça a aussi des origines très anciennes aux États-Unis et il renvoie à un ouvrage qui, pour moi, est séminal dans la littérature américaine, qui est La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Si nos auditeurs ne l'ont pas lu, je leur recommande de le lire au plus vite. Et dans ce livre, qui se passe vraiment dans les premiers temps de la fondation des États-Unis en Nouvelle-Angleterre, une femme adultère est condamnée à porter un A rouge, la lettre écarlate qu'elle doit porter tout le temps sur elle pour signifier qu'elle s'est rendue coupable du péché d'adultère. Et cette lettre devient l'objet de fascination. Enfin, c'est un livre formidable qui rappelle aussi des choses plus récentes, la série La Servante écarlate ou les pratiques des ONG aujourd'hui qu'on appelle le name and shame, où on expose le comportement délictueux de certaines entreprises ou de certaines personnes pour faire pression, pour les intimider, pour les obliger à changer de comportement.
Suite de ce numéro d'idées consacré à l'Amérique contre elle-même, c'est le titre du dossier du numéro double d'Esprit, juillet-août, et nous sommes en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue, notre amie Anne-Lorraine Bujon, spécialiste des États-Unis. La deuxième partie s'intitule Nouvelle fracture, et il y a donc cet entretien avec Bernard Harcourt, qui est philosophe politique à Columbia et directeur d'études à l'EHESS, à Paris, qui lui nous livre une analyse globale de la société américaine avec notamment ses inégalités.
Oui, il parle des inégalités et Bernard Harcourt est quelqu'un, ça mérite d'être signalé, donc il est philosophe et juriste, donc il a une vie d'universitaire dans une de ses universités très, très reconnues, l'université de Columbia, mais il a aussi une activité d'avocat et notamment il est très engagé dans la défense des détenus. On y revient, au Folsom Prison Blues, et notamment des condamnés à mort. Donc il nous rappelle aussi à cette part obscure de la société américaine qu'est la violence, le crime, le système carcéral. Voilà, et ce sont des questions qu'il aborde à la fin de son entretien.
Et d'ailleurs, il rappelle que la maison d'arrêt de la ville de New York accueille, entre guillemets, 95% de détenus de couleur. 95%
de détenus. Oui, alors ces statistiques sont absolument effrayantes. On rappelle aussi souvent que dans un certain nombre d'États américains, il y a plus de jeunes hommes noirs en prison que de jeunes hommes noirs à l'université. Précisément. Ce système carcéral, il est féroce, il est très inégalitaire et il est très racialisé. Et il montre en fait, entre autres, que la question de l'esclavage et puis de la ségrégation, qui sont, on pourrait dire, les péchés originels des États-Unis d'Amérique, continue de hanter ce pays, et c'est ce qu'on a vu ces dernières années, notamment au moment où George Floyd a été tué par un policier, que ça a provoqué des émeutes dans l'ensemble du pays, de protestations en fait contre ces injustices raciales qui persistent, et avec le mouvement Black Lives Matter qui a pris l'ampleur que l'on sait.
Et il dit dans cet entretien passionnant que la révolution abolitionniste n'est pas achevée et que la société post-esclavagiste reste à construire.
Reste à construire. Et alors, ce terme d'abolitionnisme m'avait beaucoup frappé dans les ouvrages de Bernard Harcourt. Comment est-ce qu'on peut se dire abolitionniste aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, l'abolition, moi, je la rapporte à la période l'histoire. Qui a précédé la guerre de sécession, quand effectivement l'esclavage était encore en vigueur et qu'il fallait l'abolir. Mais en fait, il nous rapproche là d'un schéma ou d'une mythologie ou d'un récit qui infuse aussi beaucoup la littérature, la pensée, la politique américaine, qui est l'idée que la révolution américaine, celle du début, la déclaration d'indépendance, c'est une révolution inachevée en quelque sorte, qu'il y a eu ce premier geste des pères fondateurs, la constitution, mais que cette révolution démocratique, elle était incomplète, puisqu'il restait notamment l'esclavage et puis c'était les droits des femmes aussi à construire, et que donc après cette période très difficile qu'a été la guerre de sécession, la révolution américaine a connu un second souffle et Abraham Lincoln en fait s'inspirait beaucoup de ces images en disant en fait le rêve américain, la révolution américaine, elle reste à construire, elle est inachevée. Et c'est aussi un langage qu'on a pu entendre dans le mouvement des droits civiques, beaucoup le célèbre discours I have a dream de Martin Luther King. Son rêve, c'est que en fait l'Amérique soit enfin à la hauteur des espoirs qu'elle a pu soulever, à la hauteur du projet, du rêve, de l'idéal démocratique. Et ce sont des idées qui sont également reprises par James Baldwin, autre auteur qui me passionne. Barack Obama s'est saisi à nouveau du même vocabulaire, notamment dans son grand discours de Philadelphie, lieu central, puisque c'est là qu'on a écrit la Constitution. Et donc, voilà, Bernard Harcourt nous dit, eh bien, aujourd'hui, il faut aussi construire une société plus égalitaire, plus juste. Elle reste à construire et c'est en ce sens qu'il se dit abolitionniste, comme quelqu'un comme Angela Davis aussi. Et il appelle de ses voeux une autre forme de démocratie qui serait la démocratie coopérative, en disant on est allé beaucoup trop loin dans cet idéal d'autonomie individuelle et qui vire à l'individualisme radical. Et en fait, aujourd'hui, et notamment devant le péril écologique, il faut au contraire comprendre nos interdépendances et construire une société, non pas de la compétition, de l'individualisme forcené, mais une société de la coopération.
Anne-Lorraine, je vous propose de retrouver Johnny Cash. Vous n'avez rien contre ?
Rien contre.
Alors là, c'est Johnny Cash à la fin de sa vie, avec un titre « Solitary Man », l'homme solitaire, qui lui convient, qu'il était seul, finalement, à la fin de sa vie.
Alors il était seul, non parce qu'il avait réussi à épouser un amour de jeunesse, June Carter. Johnny Cash, il a eu un peu une descente aux enfers, avec des problèmes d'alcool et de drogue très, très sérieux. Et ça, c'est aussi, je pense, une facette des États-Unis qu'il faut regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'il traverse une crise très grave, notamment dans l'utilisation des opioïdes. Donc, il y a vraiment une question de toxicomanie qui devient centrale aux États-Unis aujourd'hui. Donc, Johnny Cash, il a eu ses moments très durs, ses épreuves. Et puis, il a réussi à se sortir de l'alcool et de la drogue. Il l'avait promis à cette June Carter, qui est la fille d'une grande famille de la country music. Et donc, ils se sont mariés quand Johnny Cash s'est sorti de là. Et c'est la dernière phase de sa vie qu'il a passée avec elle. Et où, effectivement, ses chansons sont hantées, je crois, par cette idée d'une quête, quête de sens, quête de rédemption, un sens du tragique aussi. Et donc, ici, il chante la solitude de l'homme américain.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
Johnny Cash dans ce numéro d'Idées en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon. Terminons l'évocation de ce dossier du numéro double juillet-août d'Esprit intitulé « L'Amérique contre elle-même ». Johnny Cash me fait penser aussi à La Route, et La Route qui est un mythe aux États-Unis et qui résume aussi, enfin qui peut évoquer et résumer les États-Unis. Et Guillaume Leblanc y consacre un article intitulé « La nouvelle Amérique des routes ».
C'est un mythe et c'est une réalité. Si on a voyagé un peu aux États-Unis, on a tous en tête ces routes très droites qui ont été tracées très droites et où le paysage peut être le même pendant 8 heures. Et puis après, on traverse un bouquet de cactus et de l'autre côté, c'est plus le même paysage. Enfin, dans l'Ouest, en tout cas, c'est comme ça. Donc, effectivement, c'est l'Amérique des grands espaces. Donc, c'est une des formes de permanence dans la culture américaine, dans les imaginaires, dans les représentations des États-Unis. Mais c'est revisité aujourd'hui par des écrivains et des cinéastes dans une veine un peu différente. Et c'est vrai que la route qui a été la route de la conquête de l'Ouest, en fait, donc de la quête d'une prospérité, d'un monde meilleur, la route de la nouvelle frontière, progressivement est devenue plutôt la route de l'errance, la route qui ne mène à rien. Et la route sur laquelle on voyage sans but précis, en fait. Et Guillaume Leblanc évoque les nouveaux nomades, que sont par exemple tous ces Américains qui choisissent de vivre dans des mobilhomes et qui ont été évoqués notamment dans le très beau film de Chloé Zhao.
Nomadland.
Voilà, Nomadland, mais qui était adapté d'un roman, le roman de Jessica Bruder, et où on voit en fait ces nouveaux laissés pour compte, et c'est raconté avec beaucoup de poésie. Laissés pour compte, oui, précaires, oui, mais également libres. Donc c'est aussi cette réalité biface.
Et deux titres de livres célèbres résument cette évolution de la route. Il y a « Sur la route » de Kerouac, là ce sont les années 50, début des années 60, 57 exactement, mais il y a aussi « La route » de Cormac McCarthy en 2006, ou alors là, c'est la route pour fuir l'apocalypse. Donc, c'est deux conceptions, là aussi, de la route.
Et deux époques.
Et deux époques.
Et deux époques. Et c'est vrai que ces deux époques, en fait, nous servaient un peu d'aimant en construisant ce dossier. Donc, Jack Kerouac, les années 50, la Beat Generation, le jazz, aussi une forme de célébration de la libération des mœurs, une certaine fête, même s'il y a une face aussi un peu plus sombre dans l'œuvre de Kerouac. Et Cormac Cormac McCarthy, donc qui est un écrivain pour le coup très très noir, hein, avec des visions d'apocalypse, quelque chose d'un peu nihiliste dans cette littérature. Mais en fait, la culture américaine est volontiers une contre-culture, enfin qui tient un propos assez critique sur cette société, ses inégalités, la prégnance du capitalisme. Et on le rappellera jamais assez, très très informée, instruite aussi par la lecture de l'Ancien Testament, et donc ces visions de fin du monde, mais aussi d'une sorte de violence constitutive de l'être humain. Et ça, c'est plutôt ce qu'on retrouve chez Cormac McCarthy.
Et ce qui est notable, c'est également dans ce dossier, avec un article de Nathalie Bitinger, c'est la capacité qu'a l'Amérique de se montrer telle qu'elle est. Au cinéma, la guerre à l'époque du Vietnam, la société dans toutes ses facettes également sur les écrans. On rappelait No Man's Land à l'instant, vous nous rappeliez, il y a aussi Clint Eastwood, il y a les frères Coen, il y a d'autres cinéastes qui montrent l'Amérique telle qu'elle est.
Telle qu'elle est, et en fait, dans toute...
C'est une force.
Dans toute sa, oui, c'est une capacité à se représenter, à se représenter à soi-même, à se représenter aux autres, et ça reste en fait vraiment une des grandes forces des États-Unis aujourd'hui. C'est quand on lit beaucoup de choses sur le déclin des États-Unis, etc., oui, c'est peut-être vrai, mais en fait, cette culture, qui est une culture populaire aussi, il faut le dire, c'est sa force. Elle est très accessible, elle est très démocratique. Alors certains romanciers un peu difficiles, un peu moins, mais le cinéma en tout cas, c'est vraiment aussi la célébration de la culture populaire, de la culture pour tous, et donc on est tous très imprégnés en fait de ces images. Et les cinéastes dont vous avez parlé et dont Nathalie Bitinger parle dans son article, ce sont des cinéastes de l'Americana qui montrent aussi toutes les variétés, toutes les couleurs, toutes les facettes. Les frères Coen, en fait, ils sont passés effectivement de films qui se passent à New York et des films qui se passent dans le sud profond, à l'inoubliable Fargo dans les grandes plaines enneigées. Et donc, il montre aussi que les États-Unis ont toujours été un pays formidablement varié et truffé de contradictions.
Il y a également, bon, il y a beaucoup de choses dans ce dossier, il faut conclure cette émission, un article de Fabienne Brugère sur la bataille, ça c'est une question d'actualité ô combien, la bataille de l'avortement. Par
autour des droits des femmes, ouais, et ouais. Qui est une des questions très clivantes aux États-Unis aujourd'hui, qui contribue beaucoup à la polarisation actuelle, mais un peu dans la même veine que Bernard Harcourt. Je crois que Fabienne Brugère nous dit, dans cette question-là, se joue aussi une vision de la société. Est-ce qu'on est capable de construire une société qui place le soin des individus et leur capacité à prendre des décisions pour eux-mêmes, mais soutenue par une communauté et des formes de coopération et de lien social? Est-ce que c'est ce type de société américaine qu'on veut construire, ou est-ce que c'est celle du chacun pour soi, de la compétition, de la violence qui existe aussi?
Vous avez vu, Anne-Lorraine, on a fait une émission de 50 minutes sur les États-Unis, sans parler de Trump et de Biden.
50 minutes pour 50 États-Unis d'Amérique, c'est formidable.
Merci infiniment Anne-Lorraine Bujon. Le numéro double juillet-août donc de la revue est disponible. C'est un très beau numéro. L'Amérique contre elle-même. Esprit, c'est aussi un site, esprit.presse.fr. Il faut s'y référer. Il est extrêmement riche. Merci et bonnes vacances.
Et
on se retrouve à la rentrée.
Merci et bon été.
Merci. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Ces trois prochains dimanches, vous retrouverez des émissions spéciales consacrées aux Jeux Olympiques, avec notamment une formule hors série d'idées à cette heure-ci. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 18 août à cette heure-ci, avec toujours des émissions inédites. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.